France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
8 ans après la naissance du programme Artemis, force est de constater qu'un retour sur la Lune n'est pas aussi imminent que ça. Où en sommes-nous de cette reconquête lunaire et les Américains seront-ils à nouveau les premiers ? Du nom de la sœur jumelle d'Apollon, Artemis est un programme bien plus ambitieux qu'Apollo. Le but n'est pas de poser le pied sur le sol lunaire, planter un drapeau et repartir, mais bel et bien de s'y installer durablement. Le deuxième chapitre, Artemis 2, prévu pour février 2026, semble tenir le calendrier. Mais la perspective d'un alunissage avec Artemis 3 à la mi-2027 est désormais remise en question. En parallèle, la Chine a elle aussi l'ambition d'envoyer des taïkonautes sur place. Pékin vient de le réaffirmer, objectif Lune en 2030. L'agence américaine se sent de plus en plus menacée, et sans doute à juste titre. Artemis, qui décrochera la Lune ? Isabelle Sourbès-Verger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite CNRS au centre Alexandre Coiré, spécialiste des questions de politique de l'espace. Philippe Hénarejos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Et un grand merci à vous deux d'être là avec nous, en direct dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous d'être là au rendez-vous, en écoute en direct ou en écoute en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Vous verrez, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires, des infographies, des liens. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors quel avenir pour le programme Artemis sous l'administration Trump ? Où en sont les États-Unis côté technologie ? Et à quel point la Chine est-elle en bonne voie de réaliser ses ambitions lunaires ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour, lorsque nous avons foulé pour la première fois le régolithe lunaire.
Nouvelle observation sur la surface. Le sol est suffisamment souple pour que j'ai pu y enfoncer mon engin a creusé de 8 inches, ce qui signifie un peu plus de 10 cm, disons à peu près 15 cm, comme c'était recommandé par le plan de vol, mais ajoute Armstrong, j'aurais pu l'enfoncer plus avant sans problème. Il a maintenant saisi tous les échantillons nécessaires du premier ramassage dans sa poche. Oui, c'est une poche qui est prévue sur sa combinaison et je vous le rappelle, c'est une collection d'échantillons, un ramassage d'échantillons qui ne sont pas sélectionnés. Là, Armstrong agit selon son intuition. C'est la première collecte. En fait, un peu plus que l'intuition, puisqu'il a reçu, ainsi qu'Aldrin d'ailleurs, des cours de géologie et qu'on considère que les cours de géologie qu'il a reçus par les soins de la NASA le mettent à peu près au niveau d'un licencié en sciences pour ce qui concerne la géologie. Ce qui n'est tout de même pas si mal pour un astronaute.
Pourquoi cette collecte d'échantillons comme ça extrêmement vite ? Eh bien, ce n'est pas gratuit, il y a une raison. C'est la NASA a estimé que si, par exemple, Armstrong ne se sentait pas bien sur la Lune et qu'ils doivent repartir immédiatement, eh bien, ils auraient quand même des échantillons du sol lunaire.
Ah bah ça fait toujours quelque chose. C'est un extrait de l'émission Radio Terre sur France Inter le 21 juillet 1969. Alors, Philippe Hénarejos, pourquoi là en 2025, aujourd'hui, est-il si compliqué d'y retourner ?
Parce que ça l'a toujours été, en fait. C'était déjà compliqué dans les années 60, mais la NASA, à l'époque, a réalisé un véritable exploit en inventant toutes les technologies et toutes les techniques pour y arriver. Et ça l'est encore aujourd'hui. Alors, c'est compliqué parce qu'on repart pas de zéro. On a l'expérience de ces vols-là des années 60 et 70. Mais toute la technologie, évidemment, a complètement changé. C'est-à-dire, on va pas reprendre les vieilles fusées qui ont servi pour Apollo et les capsules qui existaient à l'époque. Ça marchait avec des gros câblages en cuivre, etc. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a des petits microprocesseurs, etc. Donc, il a fallu tout reconstruire. Il faut réacquérir de nouveau cette expérience de se poser sur la Lune. Et on voit que c'est compliqué parce que il y a eu quelques sondes américaines qui ont été envoyées sur la Lune et qui ont été laissées par la NASA au privé. Il y a plusieurs entreprises privées qui s'y sont essayées et on a vu que ça n'a pas très bien marché. Il y a resté un résidu de vitesse latérale qui fait que les modules sont couchés sur la Lune, etc. Peut-être que, vous voyez, le module lunaire qui a servi à Armstrong et Aldrin pour se poser, il avait quand même une silhouette assez trapue. On l'appelait l'araignée parce que le premier s'appelait Spider lors d'Apollo 9, mais en fait, il ressemble quand même à un insecte bien trapu. C'est pour qu'il soit bien en équilibre sur le sol lunaire qui n'est pas égal. Il n'y a pas de piste d'atterrissage sur la Lune. Et on voit que les petites sondes qui ont été envoyées étaient plutôt assez hautes. On en reparlera d'ailleurs peut-être avec le Human Landing System prévu par SpaceX plus tard. Le centre de gravité est assez haut, donc tout ça met des contraintes supplémentaires. On est plus ambitieux, mais du coup c'est plus difficile.
Des contraintes supplémentaires en effet, puisque Isabelle Surbès-Verger, on va retourner sur la Lune, mais pas de la même façon que dans les années 60. On a des objectifs complètement différents aujourd'hui.
Oui, alors on annonce aller sur la Lune pour aller vers Mars, hein, c'est ça, c'est l'idée, c'est à la fois de se poser sur la Lune, d'y rester, alors ça sera pas en permanence, mais ça serait aux dernières nouvelles, parce que on voit quand même aussi beaucoup les plans de la NASA changer en fonction, je dirais, des, comment on pourrait qualifier les hésitations du président Trump, en tout cas en fonction de ces moments d'enthousiasme ou au contraire de désapprobation, et donc du coup on sait plus très bien, mais a priori, c'était une station en orbite autour de la Lune dans laquelle les astronautes vivaient et un aller-retour sur la Lune pour commencer à créer cette base lunaire qui serait occupée en permanence ou en tout cas pendant quelques jours. Enfin, ça reste encore assez nébuleux. Hein. Et puis, se poser sur la Lune, c'est difficile, mais enfin, il y a aussi la question de repartir de la Lune. Et ça, c'est pas rien. Et si bien que finalement, aujourd'hui, dans ce grand projet de la NASA, avec cette idée qu'il faut à la fois démontrer que maintenant on maîtrise totalement en fait ce que seraient des technologies permettant à un homme de vivre sur la Lune, plus l'idée de s'en servir pour ensuite aller vers Mars, bah, du coup ça fait un programme très très compliqué, ça fait un programme de plus en plus cher et avec de plus en plus d'incertitudes.
Et on peut rappeler en effet que le séjour lunaire envisagé dans les missions Artemis, c'est quelque chose qu'on prévoit à peu près 6 jours, 5 jours, aucune mission Apollo n'a dépassé les 48 heures, donc là encore on voit qu'en termes de technologie sur place, c'est pas du tout les mêmes choses. Et on voit aussi qu'il n'y a pas que les États-Unis dans cette affaire. On voit de plus en plus d'agences spatiales qui veulent aller sur place, Philippe Hénarejos.
Oui, les États-Unis ont un concurrent, entre guillemets, qui est la Chine, tout simplement. Concurrent qu'ils ont eux-mêmes déclaré, en fait. Parce qu'ils sont très forts, les Américains, pour proclamer qu'il y a une course. Ils l'avaient fait, Kennedy, il l'avait fait en 61 avec les Russes, et ils le refont aujourd'hui. Et ça, quelle que soit l'administration en place. Sous Biden, l'administrateur de la NASA, qui s'appelait Bill Nelson, disait, les Chinois veulent arriver les premiers au pôle sud de la Lune, parce que c'est là où il y a des ressources, a priori, exploitables. Donc c'est l'endroit qui est visé. Ça n'arrivera pas. Nous serons les premiers. Les administrateurs, intérimaires ou non, qui l'ont suivi après que Trump ait gagné la Maison Blanche, n'ont pas eu d'autres discours. Je veux dire, là, il y a unité. Donc oui, il y a des concurrents. Il y a un concurrent, mais qui est surtout proclamé par les États-Unis parce que la Chine a un programme spatial depuis des décennies qu'elle suit à son rythme et n'a jamais proclamé faire une course. Et dans ce programme spatial, on voit qu'il y a un programme d'exploration scientifique de la Lune robotisé qui s'appelle, ce sont les sondes Chang'e, dont déjà 6 exemplaires ont été lancés, et tout avec succès. Certains sont posés sur la face visible, d'autres sur la face cachée, avec des rovers. Il y en a 2 qui ont ramené des échantillons de la face cachée et de la face visible. Donc tout ça a été des véritables succès, et qui ont été réalisés à l'heure par rapport à ce qui était annoncé. Donc là, cette fois, la Chine dit, nous, vers 2030, on posera 2 astronautes sur la Lune.
Et ce qu'on voit,
ouais, des taïkonautes. et ce qu'on voit actuellement du développement, ils sont quand même avares de renseignements, vis-à-vis de la presse et du monde occidental, mais le peu qu'on voit semble dire que c'est tout à fait possible.
Isabelle Surbès-Verger, vous aussi vous êtes d'accord, l'expression « course à la Lune » est complètement inadaptée.
Ah oui, tout à fait. Et je pense que c'est vraiment très important de se demander pourquoi les Américains aiment tellement poser une course. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'une part, il faut quand même justifier de l'ampleur des budgets qui sont demandés. Donc, si on va tout seul sur la Lune et qu'il n'y a pas de concurrent potentiel, à la limite, on peut leur répondre au Congrès que ce n'est pas si pressé que ça. Et donc déjà, c'est une forme de faiblesse faiblesses potentielles sur les financements. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense que la course telle que Kennedy... Alors, Kennedy n'avait pas parlé de course. Hein. Kennedy, lui, s'était contenté de dire on va faire quelque chose qui est quasiment impossible à faire, qu'on sera les seuls à faire, ça sera absolument exceptionnel, et on va aller se poser sur la Lune. Les Russes n'ont jamais, les Soviétiques n'ont jamais dit on fait la course ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment gardé ça très, très lointain. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que derrière, là encore, pour maintenir l'enthousiasme, le suspense, etc., il y a eu cette idée d'une course à la Lune qui était de plus en plus serinée et répétée côté américain. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la manière dont les Chinois parlaient de cette compétition entre les deux, c'était de dire c'est une compétition de deux impérialismes. C'est-à-dire que pour eux, en fait, il n'y avait pas autre chose qu'une volonté de démonstration. Et aujourd'hui, je pense que dans un moment où les États-Unis et leur image est quand même un petit peu contestée sur le plan international, il y a eu cet événement incroyable. D'ailleurs, c'est amusant, vous avez dit tout à l'heure, nous avons posé le pied sur la Lune. Et ça, je pense qu'il y a cette identification absolument incroyable qui a été réussie avec quand même un gros travail médiatique, hein, de communication des États-Unis, mais qui fait qu'à un moment, la planète tout entière s'est identifiée à cet exploit américain. C'était au moment de la guerre du Vietnam, c'était au moment où il y avait les combats pour les droits civiques, etc. Donc, c'est une situation difficile pour les États-Unis. Et d'un seul coup, pendant quelques temps, parce que ça n'a pas duré éternellement, tout ça a été oublié et tout le monde a eu vraiment une immense admiration pour les États-Unis. Et je pense que dans l'inconscient, alors surtout de gens comme Biden ou Trump, qui ont un certain âge, qui ont vécu ce moment sur la Lune, il y a vraiment cette idée qu'ils redémontreraient la grandeur de l'Amérique. Et ça, c'est effectivement plus important pour eux que pour les Chinois, qui de toute façon savent bien qu'ils ne sont pas arrivés les premiers en 1969. Donc pour eux, c'est une chose dite.
Alors côté États-Unis, en tout cas, le dernier pas posé sur la Lune remonte à décembre 72 avec la mission Apollo 17. Et finalement, l'ambition lunaire va être lancée par Donald Trump avec Artemis. Alors Artemis, date historique, le lancement d'Artemis 1, le lanceur lourd, le SLS, le Space Launch System, emporte avec lui un vaisseau Orion qui est à ce moment-là vide de passagers. Et là, on attend, Philippe Hénarejos, Artemis 2, lancement prévu février 2026. Et là, il va s'agir d'un tout premier vol habité.
Oui, Artemis 2, donc au sommet de cette gigantesque fusée qu'est la Space Launch System, donc SLS, qui est dérivée de la technologie de la navette avec un grand réservoir et deux gros boosters à poudre et puis un étage supérieur, et au sommet une capsule avec quatre places à bord. Eh bien, ces quatre places, cette fois, seront occupées par quatre astronautes, trois Américains et un Canadien. Et le but de cette mission, c'est évidemment de tester encore une fois la fusée, mais de tester surtout la capsule Orion, le vaisseau Orion, avec son module propulsif, qui est d'ailleurs fabriqué par l'Agence spatiale européenne, de tester la capacité de ce vaisseau à faire des manœuvres, à séjourner dans l'espace profond. Alors, ce qu'on appelle l'espace profond, c'est au-delà de l'orbite basse. Quand on va à la Station spatiale internationale et qu'on reste en orbite basse, on est quand même pas très loin de la Terre. On est à 300-400 km d'altitude et on est protégé par le champ magnétique terrestre de tout un tas de rayonnements qui viennent de la galaxie et du Soleil. Et donc, quand on sort de cette ceinture-là, dès qu'on s'élance, par exemple, vers la Lune, eh bien, on est exposé à tout un tas de radiations dont il faut tenir compte. Et d'ailleurs, il y avait des mannequins à bord d'Artemis 1 pour capter les quantités de radiation prises. Alors on me dirait, mais on ne le sait pas puisque les gars d'Apollo, ils sont allés autour de la Lune. Eh bien non, on ne le sait pas parce qu'à l'époque, on ne mesurait pas. Voilà, donc là, on fait des mesures, on voit ce qu'il en est. Et donc le but, c'est d'aller faire un contournement de la Lune. Alors, pas une mise en orbite autour de la Lune, hein, comme c'était le cas, par exemple, d'Apollo 8 en décembre 1968. C'est juste, on va se trouver sur une trajectoire, une orbite terrestre de plus en avec un apogée de plus en plus haut, une orbite très elliptique, qui fait qu'à un moment donné, le champ gravitationnel de la Lune va capter le vaisseau, avec un petit allumage des moteurs quand même, mais naturellement, avec la gravité lunaire, on va contourner la Lune, alors pas au ras, hein, on sera à 5000 km, et puis on reviendra vers la Terre. Et donc cette mission devrait durer en tout une dizaine de jours, avec cet équipage, pour tester l'ensemble du vaisseau et de la fusée.
Et alors, il ne sera pas encore question à ce moment-là d'alunissage, mais ça, ce serait prévu. On en discutera un peu plus tard de pourquoi les dates sont discutables, mais lancement prévu, donc mi-2027, Artemis 3. Là, c'est un scénario avec plusieurs étapes également, Philippe Hénarejos.
Alors Artemis 3, c'est plus compliqué parce que voilà, une fois qu'on a fait le tour de la Lune, on s'y pose pas et on en est loin en fait, parce que pour se poser sur la Lune, comme c'était le cas à l'époque des missions Apollo, il faut un vaisseau spécifique. En gros, un engin avec des pattes, pour pouvoir se poser un peu comme un hélicoptère, parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage pour avion là-bas, c'est pas plat, ça n'a pas été damé. Donc, il y a des cratères partout, il y a des rochers, donc il faut se poser gentiment, et il faut un vaisseau spécifique qui permette de décrocher de l'orbite lunaire autour de dans laquelle on se trouve, d'acheminer les astronautes, et leur permettre surtout de remonter pour revenir dans le vaisseau Orion, dont je viens de parler tout à l'heure, et après de renvoyer tout ce beau monde vers la Terre. Donc Artemis 3, normalement, on doit faire ce genre de petit voyage. Sauf que, pour l'instant, côté américain, le vaisseau qui doit permettre de se poser sur la Lune, donc qui permet d'aller de l'orbite lunaire à la surface de la Lune, qui a été appelé Human Landing System, HLS, et qui a été commandé à la société privée SpaceX, pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose. Et la date de 2027, elle est toute proche, et il y a beaucoup de tests à faire avant, on peut en parler si vous voulez, qui semble que même avec, si tout d'un coup il y avait un afflux d'argent énorme, avec des gens qui travaillent 24 heures sur 24 sur le projet, et avec des moyens incroyables, c'est pas certain que cette date serait tenue.
Mais pour l'instant, on n'en a pas vu grand-chose, mais sur quoi se fondent les incertitudes quant au retour américain sur la Lune? Restez à l'écoute, on y arrive.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Isabelle Sourbès-Verger et Philippe Hénarejos, nous parlons des difficultés du programme Artemis pour le retour sur la Lune. On vient de parler des différentes missions Apollo, des différences avec le programme Artemis, mais voilà, 8 ans après la naissance de ce programme Artemis 3, on a de sérieux doutes, Philippe Hénarejos. On a des doutes parce qu'on vient de le dire, c'est ce fameux HLS, c'est un test technologique qu'on n'a pas encore testé et dont on ne voit pas encore de preuves de preuves de concept en fait.
Mais en fait, le problème principal, je dirais, c'est que ça a été la tâche de construire ce vaisseau spécifique pour se poser sur la Lune a été confiée au privé SpaceX. Alors ça, en soi, c'est pas un problème. Mais déjà, ça a été fait comme ça parce que la NASA n'avait pas eu la dotation nécessaire pour développer les milliards de dollars nécessaires pour développer ce vaisseau elle-même. Donc, ce qu'elle a fait, elle a passé un appel d'offres auprès du privé. SpaceX a proposé quelque chose qui était le moins 10 ans, comme on dit, c'est-à-dire le plus bon marché, le meilleur marché. Et en proposant quelque chose qui était quand même une technologie de rupture, il faut bien le dire. SpaceX n'a pas proposé un module lunaire d'Apollo un peu survitaminé, un peu plus gros, un peu plus moderne, ce qui aurait été déjà difficile à faire, mais en fait, on voit à peu près ce qu'il faut maîtriser. Non, SpaceX a proposé un Starship. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de ce Starship, c'est le vaisseau fer de lance d'Elon Musk, patron de SpaceX, pour aller en orbite et éventuellement autour de Mars. C'est un cylindre, c'est une fusée de Tintin, en gros. C'est un cylindre qui fait 52 mètres de long, qui fait 9 mètres de diamètre. Au passage, c'est plus gros que les anciennes navettes spatiales américaines. Donc, c'est quand même un gros engin. Et le Starship, en version lunaire, serait le HLS. C'est ça qu'a proposé SpaceX. Donc, ça veut dire qu'il faut un Starship avec des pattes pour se poser sur la Lune. Surtout, le problème, c'est que, une fois que ce Starship est lancé depuis la Terre grâce à un gros booster qu'on appelle le Super Heavy, qui a été développé, qui est en cours de développement, d'ailleurs, actuellement, qui a fait 11 vols, il marche plutôt pas mal, mais le booster lui-même. Le Starship a encore des problèmes, mais bref. Donc, le Starship en mode lunaire, il faut l'envoyer en orbite terrestre. Et puis de là, il faut l'envoyer en orbite lunaire. Et de l'orbite lunaire, il faut le faire poser sur la Lune. Et de la Lune, il faut le faire repartir. Il faut le faire repartir à l'orbite lunaire. Alors, en quoi c'est un problème? C'est qu'une fois qu'il est en orbite terrestre, une fois qu'il a décollé de Cap Canaveral ou du Texas, peu importe, il se retrouve en orbite terrestre, mais il n'a plus de carburant à bord. Pas assez pour partir vers la Lune. Donc, il faut lui fournir une station de service, une pompe à essence. Donc, pour ça, SpaceX propose de fabriquer un autre Starship, un peu plus gros, qu'on va appeler la station de service, qui serait lancé en orbite, mais celui-là aussi, une fois qu'il est en orbite, il est vide. Donc, il faut amener l'essence dans le bidon. Donc pour ça, on va lancer d'autres Starship qui sont des super tankers en quelque sorte pour remplir la station de service. Au passage, on ne sait toujours pas combien il en faudrait, mais les plus optimistes parlent de 8 lancements, qui est avec quand même la plus grosse fusée du monde, 120 mètres de haut, 5000 tonnes au décollage, 8 lancements ou 20 lancements. Là, c'est pas la même idée. Et le problème, c'est de transférer du carburant en orbite, en grande quantité. C'est du carburant très froid, etc. C'est très compliqué. Dans la station de service d'abord. Et ça, on ne sait pas le faire.
Et ça, voilà, c'est des technologies qu'on n'a jamais testées, jamais voilà. faites. Et on a en effet des délais qui sont pas tenables. Bah, et, en tout cas, pas dans les calendriers tels qu'il est présenté à l'heure actuelle. Et face à ça, Isabelle Sourbès-Verger, on voit, face à ces nouveaux délais de SpaceX, on a cet administrateur intérimaire de la NASA, Sean Duffy, qui a donc réouvert les contrats de l'atterrisseur lunaire à d'autres acteurs pour trouver une solution plus rapide.
Oui, alors de toute
façon...
Donc là,
on a une remise en concurrence finalement avec de nouveaux acteurs.
De toute façon, la NASA, d'une manière générale, elle essaie toujours d'avoir au moins deux fournisseurs, ne serait-ce que parce que s'il y en a un qui est amené à déclarer forfait, il faut bien qu'elle ait un plan B. Et là, il y a Blue Origin avec Jeff Bezos qui a quand même réussi à démontrer qu'il maîtrisait maintenant lui aussi la technologie du réutilisable. Donc Jeff Bezos et Elon Musk sont deux personnages à part du spatial privé aujourd'hui. Aujourd'hui aux États-Unis. Donc, effectivement, il y a une compétition directe entre eux. Alors là, pour le coup, entre la Chine et les États-Unis, on peut discuter, mais entre Jeff Bezos et Elon Musk, là, il n'y a pas de question. Et effectivement, c'est assez logique et tout à fait prudent de la part de la NASA de réouvrir l'appel d'offres et d'inclure Jeff Bezos, qui d'ailleurs avait candidaté au premier appel, mais qui, à l'époque, n'était pas tout à fait prêt ou même pas du tout prêt à devenir un des potentiels partenaires. La difficulté, quand même, aujourd'hui, c'est qu'on voit bien... C'est un peu le trait d'Elon Musk. C'est de tout mettre à plat et de recommencer à zéro et de faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Alors, sûr, il l'a réussi avec ses lanceurs réutilisables. Il l'a quand même réussi avec pas mal d'années de retard. Et là, on ne sait plus très bien, si vous voulez, quel est le degré d'intérêt politique qui justifierait d'un financement à la hauteur des attentes. Parce qu'à chaque fois qu'il a voulu vendre quelque chose, il a toujours vendu un peu à un prix inférieur. Mais la NASA fait ça, elle aussi, très bien depuis très longtemps, ce qui lui cause régulièrement des problèmes au Congrès quand elle a des dépassements de budget de 50%, voire plus. Et donc là, il a un peu fait la même chose en partant du principe que de toute façon, il faudrait bien passer par lui et que donc de toute façon, il faudrait bien abonder. Et là, il rentre en contradiction avec ce discours que lui-même soutient de cette compétition qui les États-Unis se sont construites vis-à-vis de la Chine. Et ça, dans le spatial, c'est en général pas très bon. C'est-à-dire que quand vous avez une date limite qui est un peu trop près et que vous voulez à tout prix démontrer que vous êtes capable de tenir vos engagements parce que vous êtes contesté, ça peut très bien finir en drame. On l'avait vu avec la navette spatiale et il y a un moment où les procédures de sécurité, ça va rarement avec le sentiment d'urgence parce que vis-à-vis du Congrès, vous avez ces deux discours, c'est « nous sommes capables de le faire dans les délais ». Et en même temps, il nous faut plus d'argent. Et quand on voit la NASA annoncer finalement qu'elle avance d'un mois son vol d'Artemis 2, c'est bien juste pour essayer de démontrer que non seulement elle tient ses délais, mais elle les réduit. Ça paraît relativement douteux et ça ne fait pas énormément confiance à qui que ce soit en réalité, ce genre de déclaration.
Vous parlez des procédures de sécurité qui sont également questionnées avec en ce moment l'état de la NASA, les départs massifs de la NASA, environ 3800 personnes qui devraient partir de l'agence dans les prochains mois, ça représente quand même 21% des effectifs.
Ah oui, tout à fait, mais c'est dramatique à tout point de vue parce que déjà pour nommer l'administrateur de la NASA, ça a été absolument épique. On a un administrateur provisoire, personne n'est d'accord sur finalement la figure qui serait nécessaire. On a dans les départs, évidemment, les gens qui vont partir sont ceux qui vont trouver une possibilité d'emploi à l'extérieur, donc a priori plutôt les jeunes et plutôt ou des gens d'expérience et donc par définition un peu les meilleurs. Et donc pour la NASA, ça va être une organisation extrêmement violente à un moment où elle n'en a pas vraiment besoin. Donc oui, la situation est particulièrement tendue, on va dire.
Philippe Hénarijos, on peut aussi rappeler pourquoi justement tous ces départs massifs.
Là, j'imagine que c'est une conséquence du shutdown américain, le fait qu'ils n'ont pas voté le budget à temps. Bon, ceci dit, pour le programme Artemis, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça n'a pas vraiment impacté la préparation d'Artemis 2. Les gens ont continué à travailler. sans être payés. Bon, ils le sont rétrospectivement maintenant. Donc, pour l'instant, sur le programme Artemis, ça n'a pas eu d'impact. Ce qui pourrait avoir des impacts, c'est sur d'autres domaines de la NASA, notamment l'exploration scientifique, l'observation de la Terre, toutes ces choses-là que Trump aborde et qui veut couper net, tout simplement, disons-le. Il ne veut plus avoir de la moindre donnée sur le changement climatique, sur la montée des océans ou des choses comme ça. Donc, on coupe net, voilà.
Isabelle Sorbège-Vergé.
Et en plus, Trump a quand même déclaré que il y aurait les trois premières missions d'Artemis, mais que pour la suite, c'était pas du tout évident et qu'on verrait. Et donc, si les missions s'arrêtent rapidement sous prétexte de le passer au privé, mais ça encore, il faudra voir à quel prix, parce qu'on voit bien que les coûts du privé enflent aussi. De toute façon, je dirais que pour des gens qui travaillent à la NASA, c'est pas une perspective très encourageante ni très motivante. Donc, effectivement, ça joue certainement aussi dans le départ de beaucoup d'employés de la NASA.
Alors, c'est pas confortable cette situation-là, en effet, mais pour les missions qui suivent Artemis 3, Artemis 4 et 5, en fait, il y a bagarre. Il y a bagarre entre Trump et ses sénateurs, parce qu'il y a beaucoup de sénateurs qui sont élus, des républicains, qui sont élus dans des États où il y a des centres de la NASA. Et l'un d'eux, par exemple, c'est Ted Cruz, que vous connaissez peut-être, qui est sénateur du Texas, où se trouve le centre de Houston. Et Ted Cruz est monté vent debout contre le projet de budget de Trump pour 2026 pour la NASA, qu'il sabrait en fait de 25%, pour le rehausser. Alors, il va sans doute diminuer, parce que vous savez, c'est une histoire de navette entre la Maison Blanche, le Sénat, puis la Chambre des représentants, etc. Tout ça se finit normalement en octobre. Bon, là, ça n'a pas eu lieu. Donc, la NASA n'a toujours pas de budget pour 2026. Mais, en tout cas, Ted Cruz et ses comparses républicains du Sénat abondent pas dans le sens de Trump, c'est-à-dire qu'ils veulent pas voir des licenciements massifs dans leurs États, et ils veulent pas voir une perte d'activité dont la NASA est à l'origine.
Et puis, alors, en effet, pas de budget pour 2026, et puis toujours pas de directeur, enfin on a Sean Duffy qui assure l'intérim. Donald Trump a dit début novembre vouloir placer le milliardaire Jared Isaacman à la tête de la NASA, mais on attend encore les confirmations, et vous voyez vouloir réagir, Isabelle Sorbès-Vergé.
Oui, non, mais c'est vraiment ça le problème. Un programme spatial, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. S'il y a bien une caractéristique, quand on fait des analyses politiques de programme spatial, c'est toujours intéressant, parce que entre le moment où on commente l'aboutissement d'un programme et le moment où ce programme a été décidé, les circonstances ont pu énormément changer. Et donc, effectivement, on a toujours ce décalage. Mais là, dans le cadre de la NASA, faire comme ça une valse des administrateurs, et surtout choisir des gens parce qu'ils vous sont proches et parce qu'ils vous soutiennent et parce qu'ils font partie de votre coterie, c'est quand même assez problématique. Et de la même façon, il y a une autre difficulté qui fait que les sénateurs républicains ont à raison sont montés au créneau, c'est que quand même la fiabilité d'Elon Musk, c'est pas non plus un personnage. Enfin, on a pu se rendre compte grâce à son passage en politique qui a été aussi bref que retentissant, que quand même il y avait des difficultés dans la manière dont lui-même se projetait dans l'avenir et était cohérent par rapport à ses propres objectifs. Donc c'est évident que aller se mettre dans la main d'Elon Musk en attendant Jeff Bezos, c'est quand même très très compliqué.
Je voyais Philippe Hénarejos grimacer.
Oui. Elon Musk, au début, on le disait fantasque, disruptif, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il est instable, c'est tout. Il est totalement instable. Et donc, bon, il se borne à faire ce qu'il a toujours fait, finalement. Il annonce des calendriers. Quand Sean Duffy a mis sa société SpaceX en concurrence avec Blue Origin de Bezos pour le Human Landing System, d'abord, il l'a insulté. Bon, ça, c'est la moindre des choses. Mais ensuite... il a montré quelques images de synthèse de l'intérieur du Human Landing System qu'il prépare. Et puis là, récemment, il a donné un calendrier. Il est très fort en calendrier, Elon Musk, parce que selon le calendrier muskien d'il y a quelques années, on devrait déjà être autour de Mars aujourd'hui. Donc, son calendrier qui dit, en fait, oui, on se posera sur la Lune en septembre 2028. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire que les images de synthèse, c'est pas des vraies photos. On ne sait pas où en est le développement de... Peut-être qu'il est très bien son développement, mais on n'a rien. Et le calendrier, ben, c'est une déclaration d'intention, de plus.
Aucune preuve concrète. Pendant ce temps, de son côté, la Chine avance aussi. Alors, arrivera-t-elle la première sur place ? Restez avec nous. On the roof.
sides of the moon and drinking moonshine. Making love at the altar of the Jewish church. These girls are going to burn. When you taste life and freedom, you can go back. I taste life, sleeps, and I broke my chains. Now I don't want to go back. Reading old poems and hearing old music, it was the real life. We were so stupid, wrong and young, but always strong. When you taste life and freedom, you can go back. I taste life, sleeps, and I broke my chains. Now I don't want to go back.
Driss, Moonshine en direct sur France Culture, car nous parlons des programmes spatiaux pour conquérir ou reconquérir la Lune. On en parle avec Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche émérite CNRS, au Centre Alexandre Coiré, spécialiste des questions de politique de l'espace, et Philippe Hénarejos, journaliste scientifique, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. On vient de voir qu'après le vol d'essai sans équipage Artemis 1, qui a eu lieu en novembre 2022, la mission a Artemis 2 est prévu pour février 2026, mais en revanche, pour ce qui est du troisième chapitre, Artemis 3, c'est plus discutable. On vient de parler des difficultés, de l'instabilité de la NASA. Parlons à présent maintenant de la Chine. Pékin a réaffirmé son objectif, objectif Lune, en 2030. Alors, la NASA, SpaceX se sentent de plus en plus menacés, et à juste titre, Philippe Hénarejos.
Ils se sentent menacés, car comme je le disais depuis le début, c'est eux qui ont déclenché la course. Donc maintenant, l'horloge tourne contre eux, en quelque sorte. Eux, ils ont des problèmes de développement, c'est à peu près établi. Mais la Chine a toujours dit que vers 2030, ils tourneraient autour de la Lune et tenteraient de s'y poser. Et ce calendrier ne semble pas irréaliste. Simplement, quelques faits. Je disais tout à l'heure qu'on n'avait rien sur le Human Landing System de SpaceX, à part des images de synthèse d'un calendrier. Pour la Chine, c'est pas le cas. On a vu des photos du nouveau vaisseau qui s'appelle Mengzhou, qui doit véhiculer les astronautes chinois autour de la Lune. On a vu des essais sous un portique gigantesque du vaisseau atterrisseur, l'ANUE, qui s'appelle, et avec les rétrofusées qui fonctionnent, etc. On a vu des essais statiques des moteurs qui propulseront la nouvelle fusée Longue Marche 10, qui n'est rien d'autre finalement qu'une évolution de la Longue Marche 5 qui marche bien, mais avec deux autres corps centraux qui seraient sur les côtés. Donc, a priori, le développement est pas forcément très 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 complexe. On a vu des essais en vidéo d'échappement du vaisseau Mengzhou en cas de problème lors du lancement. Vous savez que pour que des humains montent à bord d'une fusée, il faut que celle-ci soit certifiée pour le vol humain. Et elle est certifiée pour le vol humain par le système qui permet aux humains de s'échapper en cas de problème, en cas d'explosion. Eh bien, il faut d'abord tester ça au sol. Donc, on a vu le vaisseau être arraché au sol par des fusées de secours, envoyé en haute altitude et redescendre tranquillement sous ses parachutes. Donc, on a du concret côté chinois. Et on a autre chose qui est concret, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Les programmes Chang'e, dont je parlais tout à l'heure, qui sont des sondes automatiques qui sont allées autour de la Lune et qui se sont posées sur la Lune, sont arrivés en temps et en heure. Et sans faiblesse, ça a très très bien marché. Donc les Chinois nous habituent à tenir leur calendrier, et alors qu'ils sont quand même avares d'informations, on voit quand même des choses sur des éléments concrets, on voit des photos, on voit des vidéos, et donc on pense qu'en 2026, on va avoir les premiers lancements de la Longue Marche 10, avec au sommet le nouveau vaisseau spatial, d'abord sans personne à bord, évidemment, comme l'Amérique l'a fait avec Artemis 1 et la capsule Orion. Et puis, on va avoir aussi un test du module lunaire en orbite, sans doute, autour de la Terre. Et tout ça, on voit qu'on est en 2026. Et si tout ça a lieu, la date 2030, elle est pas folle, finalement.
Longue Marche 10, c'est le lanceur chinois à destination de la Lune et qui sera, d'une puissance assez impressionnante, je disais, en préparant cette émission, Philippe Hénarejos.
Alors, ils ont renoncé à avoir un méga lanceur. Au départ, c'était Longue Marche 9 qui devait surclasser la Saturne 5 et tout envoyer d'un coup. Ils ont vu que c'était compliqué quand même. Donc, ils ont opté pour une autre stratégie avec la Longue Marche 10, qui est un allongement de la Longue Marche 5 plus remettre deux fois autour, en guise de booster, le premier étage. Donc ça fait quand même une fusée qui fait dans les 98 mètres de hauteur. C'est pas mal, c'est l'équivalent de la SLS en termes de hauteur. Et qui permet, c'était une stratégie d'ailleurs que les Américains avaient envisagée avant de commencer le programme Apollo, qui permet avec deux lancements de lancer d'abord le module lunaire en orbite lunaire, c'est-à-dire on le lance, il fait un tour de la Terre, puis après il s'élance vers la Lune et il se met tranquillement en orbite lunaire. Puis un deuxième lancement de longue marche 10, une fois que le module est bien arrivé, avec les trois astronautes à bord du vaisseau Mengzhou, qui lui aussi le rejoint en orbite autour de la Lune. Là, les deux se réunissent, deux astronautes passent dans le module lunaire et ils descendent sur la Lune. Ça ressemble beaucoup à l'architecture d'Apollo, avec des améliorations, finalement, parce que le moteur pour descendre sur la Lune est largué, et puis le module lunaire peut être réutilisé, ce qui n'est pas le cas des modules lunaires d'Apollo.
Alors là, on voit que toutes les pièces du puzzle commencent à être réunies. Et ce qu'il faut ajouter, Isabelle Sorbers-Verger, c'est que ce scénario, il repose sur une chaîne 100% nationale.
Alors, bien obligé. Hein. Je pense que si la Chine n'avait pas été comme ça mise au banc de la coopération occidentale, elle aurait certainement d'abord progressé plus vite et puis ensuite, elle aurait pu bénéficier d'une coopération internationale, ne serait-ce que, par exemple, sur la Station Spatiale Internationale, où elle a toujours été interdite d'accès. Hein. Les Américains, à part une très brève période depuis, en gros, les années 90, interdisent absolument tout type de coopération avec la Chine. Ça en est au point, et c'est d'ailleurs assez ridicule, que quand la Chine a ramené des échantillons de la face cachée de la Lune, les scientifiques américains ont dû demander à la NASA de demander au Congrès l'autorisation de déroger pour pouvoir postuler et recevoir des échantillons lunaires chinois. Donc effectivement, compter sur ses propres forces, hein, c'était le slogan de Mao, ça c'est quelque chose que la Chine pratique de toute façon depuis le début de son programme spatial, donc en gros depuis le tout début des années 60. Donc ça, c'est, je dirais, son point fort, parce que, d'une certaine manière, comme elle ne dépend d'aucun partenariat, ben, de toute façon, elle est en temps et en heure, son programme, il est cohérent, ce sont aussi des entreprises d'État, parce que c'est très amusant, cet enthousiasme qu'on a pour le privé, qui coûterait moins cher, qui serait plus efficace, qui tiendrait mieux ses délais, etc., etc. Dans le cas de la Chine, ce sont bien des entreprises d'État qui font le travail et qui le font très, très bien. Donc, effectivement, on a toute cette dimension-là. Et puis, on a quelque chose de très intéressant, à mon avis, dans le programme chinois, c'est finalement qu'est-ce qu'ils vont faire sur la Lune. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sur la Lune? Eux, ils disent, on va faire une station lunaire internationale de recherche scientifique. Et donc, vous avez un discours où la Lune dit, on est ouvert à tout le monde, on sera ouvert aux Occidentaux comme à tout autre pays dans le monde. Et c'est assez drôle parce que du coup, ça a suscité des réserves américaines très très fortes, au point que l'Agence spatiale européenne, qui aurait pu éventuellement potentiellement être intéressée par des coopérations avec la Chine dans le domaine des vols habités, a fait savoir que les conditions politiques n'étaient pas réunies pour coopérer avec la Chine. Ce qui est quand même assez incroyable, vu que les Chinois affichent. Alors, on est d'accord, on est beaucoup dans le déclaratoire, mais quand même, il y a cette déclaration où, donc, d'un côté, on est ouvert, les Américains freinent leurs alliés si bien qu'ils n'y vont plus, et d'où une déclaration chinoise très intéressante qui est de dire que, en fait, la Chine est bridée dans sa coopération internationale par les États-Unis, ce qui, d'une certaine façon, est totalement exact. C'est d'autant plus important que les Américains, eux, de leur côté, ce qu'ils mettent en avant, c'est une exploitation commerciale pour des sociétés privées qui sont censées faire des bénéfices avec. Ça va être assez intéressant sur le plan des opinions publiques.
Les États-Unis, en effet, qui veulent leur part du croissant. Alors, chez nous ou États-Unis, aller sur la Lune, oui, d'accord, mais où exactement? On continue avec le reportage du jour. La mission Artemis 3 visera donc à ramener des astronautes sur notre satellite fin 2026. C'est la zone d'alunissage privilégiée par la NASA et le pôle Sud. Pour comprendre les raisons du choix de cette zone géographique, nous sommes allés à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et c'est avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, pour interroger Philippe Lognonnet, planétologue, professeur à Paris Cité et grand contributeur à la sismologie martienne. Il m'a expliqué les arguments scientifiques de cet attrait du pôle Sud. Clairement, la présence d'eau, car il y a bien de l'eau, non pas sous forme liquide, mais sous forme de glace ou de vapeur qui peut se condenser. Et c'est ce qui se passe au pôle, et en particulier au pôle Sud. Certains cratères n'y sont jamais ensoleillés et incarnent des sortes de réservoirs de glace. Mais il reste encore à savoir cibler précisément ces zones, objectif qui pourrait s'accomplir grâce à la lumière UV lointaine du cosmos.
Donc ici, vous êtes dans l'équipe à planétologie et sciences spatiales de l'IPG, où on a non seulement des équipes de chercheurs qui travaillent sur les données spatiales, mais aussi une équipe d'ingénieurs qui va concevoir, développer, tester des instruments qui vont être envoyés sur la Lune ou sur Mars. En particulier, on a ici réalisé les sismomètres qui se trouvaient sur la mission InSight et le sismomètre pour Mars et le sismomètre qui va aller sur la mission Farside, Sismic Suite, hein, sur la Lune.
Donc ici, il y a des salles expérimentales avec des instrumentations pour justement tester, assembler des...
Oui, donc
des instruments de mesure.
On a des salles blanches, des salles d'opération où on travaille à la réception des données. Et puis j'en profite pour vous montrer par exemple quelques-uns de ces modèles. Là, dans cette vitrine, vous avez une sorte d'histoire... des instruments qu'on a réalisés depuis...
C'est des mini-maquettes.
Voilà, c'est des mini-maquettes avec de temps en temps des prototypes.
Cet instrument-là, c'est un sismomètre?
Alors ça, c'est la structure qui soutient un sismomètre. Ici, vous avez des pendules sismiques qui sont typiquement ceux qu'on va envoyer sur la Lune et qu'on a envoyés sur Mars.
Concernant Artemis 3, est-ce que vous êtes impliqué dans l'étude sismologique de la Lune à son pôle Sud?
Alors, nous allons contribuer à ce projet en fournissant des observations de flashs lumineux depuis la Terre. D'ailleurs, nous sommes quand même impliqués sur une autre station sismique lunaire qui va aller en 2027 sur la face cachée de la Lune. C'est la station Farside Sismic Suite qui va aller sur la face cachée de la Lune dans le bassin de Schrödinger et qui se posera sur la Lune en 2027, un petit peu avant, a priori, Artemis 3.
Alors vous qui êtes géophysicien, planétologue, comment on peut expliquer ce choix stratégique du pôle Sud? Quels sont les arguments scientifiques et technologiques pour une éventuelle base lunaire?
Alors d'abord, du point de vue scientifique, il y a deux intérêts importants pour le pôle Sud. Le premier intérêt, c'est essentiellement programmatique. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'au pôle Sud, dans les cratères qui sont toujours à l'ombre du Soleil et qui sont très froids, avec des températures inférieures à moins 200 degrés Celsius, on pense qu'il y a de la glace d'eau qui s'est progressivement déposée depuis plusieurs millions d'années. Ça, c'est donc un intérêt essentiellement programmatique en termes de mission spatiale. Pourquoi? Parce que la plupart des fusées, par exemple Ariane, aujourd'hui, utilisent de l'oxygène liquide, de l'hydrogène liquide. Et donc, on peut imaginer que si on va sur la Lune trouver de l'eau, on peut la décomposer et comme ça avoir d'une certaine façon une sorte de station-service. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est que les missions Apollo se sont posées presque toutes sur la face visible de la Lune, dans des terrains qui sont un peu particuliers, alors que les terrains du pôle Sud, eux, sont très différents. En fait, quand on regarde le pôle Sud, on voit que c'est des terrains qui sont blancs, presque blancs, qui correspondent à ce qu'on appelle des highlands. Et ça, c'est des terrains, justement, qui n'avaient pas été étudiés par les missions Apollo.
Pour en revenir sur l'eau, justement, cette eau, elle se trouve condensée sous forme de glace, mais accessible dans les couches de la surface lunaire?
Oui, en fait, c'est pas de l'eau qui vient de l'intérieur de la Lune. C'est a priori de l'eau qui a été aussi amené vers la Lune par le vent solaire, qui se dépose un petit peu partout à la surface de la Lune. Et ce qui va se passer, c'est que le jour, eh bien, cette eau va se sublimer. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide, c'est uniquement soit de la glace, soit de la vapeur d'eau. Cette eau va se sublimer, va se transformer en vapeur. Et cette vapeur va migrer vers les endroits qui sont tout le temps très très froids, où elles peuvent se condenser. Et c'est ce qui se passe, a priori, donc au pôle nord, un petit peu, mais surtout au pôle sud.
À combien on estime ce réservoir d'eau glacée ?
Alors, finalement, c'est un réservoir qui est assez faible. C'est à peu près la quantité d'eau que charrie la Seine en une heure. Donc, en gros, on prendrait la Seine, on stocke toute l'eau qui coule dans la Seine à Paris pendant une heure, et puis on aurait toute la quantité d'eau qu'il y a au pôle sud. Donc, évidemment, du point de vue des ressources terrestres, c'est très 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 peu. Mais par contre, du point de vue des ressources spatiales, c'est beaucoup, hein, tout simplement parce que la Seine va charrier 400 tonnes d'eau par seconde. Et donc, vous pouvez faire le compte en une heure. Alors, maintenant, la grande question, c'est quelle est la profondeur de cette eau? Est-ce qu'on parle de 1 mm d'eau à la surface? Est-ce qu'on parle de 1 mètre ou de 10 mètres? Et évidemment, quelle est la teneur en eau. Par exemple, une observation, et c'est la carte que je vous montre tout de suite, c'est des observations qui ont été faites avec la lumière ultraviolet qui est générée par les étoiles. Alors, pourquoi on utilise ça? Ben, il faut se rappeler que l'eau est fortement présente dans les cratères qui sont toujours à l'ombre du soleil, donc il n'y a pas de lumière qui vient du soleil. Donc, il faut essayer de trouver la lumière ailleurs. Et là, en l'occurrence, on essaie de trouver de la lumière qui est émise par les galaxies, par les étoiles, dans le domaine UV. Et cette lumière ultraviolette va se réfléchir à la surface de glace d'eau d'une manière différente que si elle se réfléchissait sur des régolithes secs. Et en particulier, avec ça, on arrive à quantifier comme cela la présence en eau. Artemis est aussi une mission, évidemment c'est une mission humaine, mais il y a tout un volet scientifique qui se rajoute. Donc l'exploration du pôle sud de la Lune n'est pas uniquement une recherche d'eau, c'est aussi des nouveaux objectifs scientifiques, c'est aussi des nouvelles questions scientifiques, et ce qu'on espère évidemment à l'Institut de physique du globe, mais aussi avec toute la communauté qui a participé à la mission InSight, c'est qu'on va voir avec cette mission, avec les missions chinoises, avec les missions peut-être européennes un jour, avec des missions japonaises, qu'on va voir progressivement se constituer un réseau de stations sismologiques sur notre satellite d'ici moins de 5-6 ans.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo sur votre appli préférée, l'application Radio France bien sûr. Philippe Hénarejos, on entendait dans ce reportage, voilà, l'un des enjeux de ce retour sur la Lune, c'est de tester tout un tas de technologies qu'on appelle aussi des technologies ISRU, In Situ Resource Utilizations.
Oui, l'idée, c'est d'installer des bases, que ce soit les Chinois ou les Américains voudraient installer des bases semi-permanentes au pôle sud de la Lune, comme ça a été dit, parce que dans ces cratères perpétuellement à l'ombre, il y aurait de la glace d'eau, et que cette glace d'eau pourrait être utilisée. Alors, peut-être qu'on pourrait faire de la science en premier pour savoir d'où elle vient, mais avant de prendre des douches avec. Mais en fait, l'idée, c'est de se servir de cette glace d'eau à terme pour refaire, pour faire sur place du carburant pour des vaisseaux qui partiraient ailleurs, etc. Mais on voit que les ressources sont quand même assez limitées. Enfin, en tout cas, on les connaît mal. Donc, avant d'échafauder des plans sur la comète, ou plutôt, plus exactement sur la Lune, il faudrait peut-être explorer d'abord.
Isabelle Sourbès-Verger.
Oui, ça pose énormément de questions, parce que finalement, on part du principe que si on veut faire une base lunaire, il faudra qu'elle soit un minimum autonome. Et on ne peut pas monter absolument tout sur la Lune, l'air, l'eau, sans parler évidemment des denrées, récupérer les déchets, etc. Donc on va apprendre beaucoup de choses en termes de recyclage, ça c'est certain, on le fait déjà à bord de la Station Spatiale Internationale. Mais l'idéal, c'est que la Lune soit capable à minima de servir, et donc cette ressource sur place, elle va être transformée pour les besoins sur place. Et c'est là que c'est un petit peu étonnant, parce que d'une certaine façon, on dit c'est c'est magnifique, il y a de l'eau pour faire vivre des hommes, mais finalement, si on faisait que de la science, on n'aurait pas besoin d'eau. Donc, on a vraiment quelque part un moment où le serpent se mord un petit peu la queue sur, mais pourquoi faut-il absolument mettre des hommes sur la Lune? Ça, c'est une vieille question qu'on retrouve très, très souvent. D'où quand même l'intérêt qu'on évoquait tout à l'heure, de savoir si on fait vivre une station spatiale scientifique, internationale, ou si on fait vivre finalement une exploitation des autres ressources de la Lune que sont les minéraux, etc. Et c'est pas du tout évident là non plus, plutôt les minerais que les minéraux, ce serait mieux. Et du coup, c'est pas du tout évident que là encore, on ait sur la Lune les moyens de pouvoir réaliser cette exploitation, sans parler même du coût et sans parler de la dimension écologique. Parce que, après tout, on part du principe que, comme il n'y a personne sur la Lune, on a le droit de la forêt, etc., etc. Mais c'est peut-être pas si évident, là non plus, pour les opinions internationales.
Mais alors, on a parlé, pour finir notre tour d'horizon, puisqu'on arrive, on va bientôt retrouver la chronique d'Alexandra Delbo, on a parlé des États-Unis, de la Chine, qui n'est pas plus avancée d'un point de vue technologique, mais qui, en revanche, est dans un objectif d'efficacité. On a parlé de ces deux acteurs, mais ils ne sont pas les seuls à faire le pari de la Lune.
Oui, en effet. Alors déjà, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la Chine ne veut pas apparaître comme unique sur la Lune dans son propre programme. Et donc, c'est un programme qui est fait avec la Russie. Ce qui est assez étonnant et qui montre bien surtout la dimension politique d'une alternative au modèle sous leadership américain, parce que aujourd'hui, la Russie a quand même de grosses difficultés dans le domaine de l'exploration spatiale et sa dernière mission, malheureusement, a été un échec. Ça a été un échec tout à fait à la fin, mais ça a été un échec. Donc, aujourd'hui, ce qu'on imagine de ce que pourrait être une contribution russe, ça serait un réacteur nucléaire sur la Lune qui permettrait précisément de fournir des sources d'énergie. Et puis, vous avez aussi quand même l'Inde, dont on parle très peu, mais l'Inde a, elle, réussi une très belle mission au pôle sud de la Lune, qui était une mission automatique. Elle n'annonce pas encore de vol habité sur la Lune, c'est certain. Elle est en train d'essayer d'apprendre à en faire en orbite basse, mais elle a des ambitions de présence lunaire qui sont tout à fait claires. Automatique, hein. Vous avez aussi le Japon qui, au travers d'un programme à la fois commercial et public, lui aussi démontre ses capacités. Et vous avez la question de l'Europe spatiale, qui est une question intéressante parce que finalement, on n'a pas encore vraiment tranché. Hein. Il y a une ministérielle qui se tient ces jours-ci. On n'a pas encore vraiment tranché sur ce qu'on voulait faire sur la Lune. Pour l'instant, on propose de l'infrastructure hein, et on essaie de se rendre un petit peu indispensable de manière à pouvoir ensuite négocier son propre intérêt. Donc oui, sur la Lune, il n'y aura pas que les Américains et les Chinois.
Philippe Hénarijos, pour conclure ce tour du monde des ambitions lunaires.
Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de grandes puissances. L'Europe doit trouver sa place dans tout ça parce qu'il y a une dimension géopolitique qui ne s'est jamais démentie dans cette histoire d'exploration de la Lune depuis les années 60. Et ça continue en fin de compte. Donc, même sans savoir pourquoi, j'ai l'impression qu'il faudra en faire partie. Pour des raisons géopolitiques.
Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, de nous avoir fait voyager, de nous avoir emmenés dans cette, on va pas dire course à la Lune, puisque on a dit pourquoi cette expression était limitée, mais un grand merci pour prolonger le plaisir. Je rappelle, Philippe Hénarijos, que vous avez publié le très beau livre « Ils ont marché sur la Lune ». C'est aux éditions Bellin, c'est disponible en librairie ou en médiathèque. Et vous avez publié Isabelle Sourbès-Verger, « L'espace » aux éditions CNRS Éditions. Grand merci. Tout de suite, on retourne sur Terre et on vous parle de cannibalisme chez les Néandertaliens. C'est la chronique avec science.
Qui étaient les victimes de cannibalisme chez Néandertal? Le cannibalisme est une pratique très ancienne dans la lignée humaine. Ce comportement est documenté avec certitude depuis à peu près 1 million d'années. Par exemple, à Grandolina en Espagne, Homo antecessor, le premier européen du genre Homo, pratiquait déjà l'anthropophagie il y a 800 000 ans. Une petite précision de vocabulaire, l'anthropophagie, c'est le fait de se nourrir d'un humain, et le cannibalisme, c'est le fait de se nourrir de sa propre espèce. ça se recoupe pour notre cas, mais cela existe aussi dans plein d'autres groupes animaux. Chez les insectes, arachnides, amphibiens, poissons, oiseaux et une flopée de mammifères, dont la lignée humaine au sens large du terme. On trouve sur les squelettes des marques caractéristiques de découpe, avec des défunts dépecés et démembrés en vue d'être consommés. La question c'est pourquoi ? Pourquoi se nourrir de sa propre espèce ? Et là, les raisons de ces pratiques sont multiples. Isabelle Crèvecoeur est directrice de recherche CNRS dans l'unité mixte de recherche PACEA de l'Université de Bordeaux.
Il y a autant presque d'intentions que de groupes humains qui l'ont pratiqué. On peut un peu diviser le cannibalisme en grands groupes. D'abord, le cannibalisme qu'on pratique sur les membres de son groupe, ça qu'on va appeler endocannibalisme, et qui est souvent lié en fait à des pratiques mortuaires, des rituels, parfois dans le cadre de funérailles. Et puis, il y a un cannibalisme que l'on pratique sur des personnes considérées comme autres du groupe, c'est l'exocannibalisme. Et ça, c'est plutôt quelque chose qu'on observe dans des cas de conflits entre groupes ou voilà, de prédation, etc. Et puis, après, il y a aussi la manière de pratiquer ce cannibalisme. Donc, il y a un cannibalisme qu'on va dire commensal, alimentaire. Ils sont tous alimentaires d'une certaine manière, mais il y en a où vraiment l'action d'aller chercher la partie nutritive en fait de reste humain est vraiment clair. On va avoir par exemple une fracturation des ossements pour aller chercher la moelle osseuse sur certaines parties du squelette et pas tout le squelette, où là on voit clairement que l'objectif premier était d'aller se nourrir de la personne.
Les catégories paraissent simples, mais ce n'est pas évident, avec seulement le registre archéologique, de déterminer une intention. Et puis, certaines catégories se chevauchent parfois. Ce que l'on sait, c'est que Néandertal a déjà pratiqué ce comportement. C'est le cas notamment à Goyer, en Belgique, qui est la plus grande collection de restes néandertaliens dans le nord de l'Europe. Là-bas, le cannibalisme est bien attesté. On observe sur les os des traces de découpe, de dépeçage, de récupération de la moelle et un traitement du corps comparable à celui des animaux chassés. On est donc face à un cannibalisme alimentaire. Et depuis cette découverte il y a 10 ans, les scientifiques veulent aller plus loin et identifier qui a été ainsi mangé. Est-ce que les personnes cannibalisées ont un profil particulier ? C'est précisément ce qu'explore cette nouvelle étude parue dans Scientific Reports en combinant des analyses isotopiques, génétiques et morphologiques. Et résultat, ces Néandertaliens n'ont pas mangé n'importe qui, ce sont des femmes et aussi des enfants, autrement dit, un cannibalisme très sélectif.
Donc l'intention derrière ce cannibalisme n'était sans doute pas simplement alimentaire, mais peut-être aussi un comportement particulier vis-à-vis d'autres groupes. Parce qu'on a pu identifier que ce groupe était fait uniquement de femmes avec des enfants, des femmes qui étaient de petite stature, qui étaient graciles et surtout qui avaient une composition isotopique du soufre, donc c'est-à-dire un indicateur de la provenance géographique qui n'était pas locale. Et donc là, vraiment, on va dire de façon intégrative, en accumulant toutes ces données isotopiques, génétiques et morphologiques, eh bien, on a pu proposer cette hypothèse de sélection. Donc, c'était pas seulement des femmes génétiquement, mais aussi des toutes petites femmes parmi les plus petites des néandertaliennes qu'on connaît et qui étaient assez graciles, donc on va dire des proies de choix.
C'est donc du cannibalisme alimentaire, oui, mais aussi de l'exocannibalisme, parce que ces femmes néandertaliennes viennent d'ailleurs. Et ce cannibalisme très sélectif ne doit rien au hasard. Se nourrir de femmes et d'enfants, c'est soustraire à son ennemi les capacités de reproduction. La suite, pour ces chercheurs et chercheuses, c'est de poursuivre les analyses génétiques. On sait déjà que ces femmes n'appartiennent pas à la même famille. La vraie question maintenant, c'est de savoir si elles venaient malgré tout du même groupe ou de groupes différents. Si elles provenaient de plusieurs groupes, cela indiquerait une stratégie répétée et systématique et non un épisode isolé. Le contexte temporel est également essentiel. Les restes de Goyer datent d'il y a 41 à 45 000 ans, c'est-à-dire juste avant la disparition de Néandertal dans la région. Or, à quelques centaines de kilomètres de là, dans la vallée de Néander en Allemagne, là où l'espèce a été découverte, on observe des Néandertaliens très différents culturellement. Et un peu plus à l'est encore, Homo sapiens était déjà présent. On a donc des groupes distincts dans un contexte de pression territoriale et de compétition pour les mêmes ressources. Goyer pourrait donc être l'un des exemples les plus prégnants de conflits entre groupes humains.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Loïc Dutoit, Céline Lozen, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, c'était Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.